Bonjour les amis. Bonjour, bienvenue. Comment ça va bien? Les petits amis, est-ce que ça roule pour vous en ce vendredi? C'est la fin de la semaine. Il commence à faire beau, là, il y a un ciel bleu, dis donc. On voit le... Non, c'est bien, c'est bien. On voit l'action résolue du gouvernement en faveur de... Voilà, non, c'est bien, c'est bien. On est content. Balade au soleil, mais ouais, balade au soleil, trop bien. Et on profite, hein. On profite, hein. Le stream de vendredi après-midi pour feignasser au bureau. De toute façon, on le sait. C'est dans le code du travail, hein, que le vendredi après-midi, au boulot, on a le droit de lever le pied un peu. Ah, c'est pas la peine de. Oh. On verra lundi, on verra lundi, on verra lundi. C'est bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien de plus avoir de pluie, mais il manque de la chaleur. Ah ouais, putain. Il fait froid. Hein. Ici, ça corrige des copies. Oh! Bravo. J'ai regardé en replay les deux dernières émissions de Backseat, ils sont tellement bien. Ah, ça fait plaisir. Très heureux. Très heureux que ça t'ait plu. Eh ben, on va continuer alors. Dis ça à ma chef, elle m'a posé une réunion à 18h. La réunion à 18h le vendredi, elle est criminelle. C'est comme la réunion le lundi à 8h30. Ça devrait être interdit. Le lundi, on a le droit d'arriver au bureau dans le gaz avec une demi-heure de retard. C'est la règle. C'est la règle. Est-ce qu'on va revoir Namou en chroniqueuse régulière? Probablement, oui. Moi, j'étais très content. Elle est chouette, Namou. Elle était très stressée avant l'émission, ce que je comprends tout à fait. C'est pas facile hein, d'être chroniqueur sur Backseat pour la première fois. Et je trouve que s'en est bien sorti. Ses questions étaient chouettes. Non, non, c'était vraiment cool. Elle avait l'air tendue pendant un... Mais oui, elle avait l'air tendue, mais c'est normal, putain, vous vous rendez compte? Première émission Backseat, t'es tendue de ouf, c'est normal, hein. Re-regardez les premiers épisodes de Backseat avec Léa. J'ai fait ça récemment, tu regardes le premier Backseat. Regarde comment sur le plateau on était tous perdus. On était tous morts de trouille. Il n'y avait aucun rythme et tout. Non, ça s'apprend, c'est pas facile. Mais ouais, non, Namo, elle était top, j'étais content qu'elle accepte de venir. L'invité politique, il est arrivé quelque part in fine où il a dormi dans sa voiture. Oh, ça a été le bordel, ça. Franchement, c'était compliqué, hein, parce que on avait calé Bernard Guetta, il était chaud pour venir, il prenait son train, il arrivait dans l'après-midi. Finalement, dans l'après-midi, on apprend qu'il y a un incendie sur un train, je sais pas quoi. Bref, c'est bloqué. Les trains de Strasbourg sont bloqués, la ligne de Strasbourg est bloquée. Du coup, on ne sait pas si on peut quand même faire l'émission, enfin si on peut quand même la voir. Après, il nous dit qu'il va aller de Strasbourg à Metz pour choper un train à Metz. Finalement, il nous dit qu'il va pas choper de train à Metz, mais qu'il va prendre une bagnole pour rentrer de Metz à Paris. Et il prévoit d'arriver à Paris, je sais plus, à 21h, un truc comme ça. Enfin, du coup, on se dit, vas-y, est-ce qu'on le reçoit sur le plateau avec une demi-heure, juste pour une demi-heure à la toute fin et tout. Enfin, on a tout envisagé. On a vraiment tout envisagé. Et c'est peu avant le début de l'émission qu'on a décidé d'arbitrer en disant non, laisse tomber, on n'y arrivera pas. Il va se choper des bouchons à l'entrée de Paris, c'est sûr. Vas-y, laisse béton. Donc on a chamboulé le conducteur de l'émission et tout. Et on a dit à Edoui, bah écoute, tu vas rester avec nous. C'est ta première chronique, donc tu sais quoi, on va en profiter. Tu vas rester avec nous, on va discuter. On va discuter avec toi, on va parler de plein de trucs. Il était chaud, donc voilà. Donc merci à vous hein, d'avoir été là hier soir. Désolé, on n'a pas pu avoir Bernard Guetta. On avait tout préparé, l'interview elle était trop bien et tout. On avait plein de questions à poser à Bernard Guetta, mais c'est niqué. Il y avait même un DJ set. Il y avait même un DJ set. Une visio? Non, non, non. Les visios c'est trop relou. Les visios pour les invités politiques c'est trop relou. Ça n'a aucun intérêt, c'est trop dommage. Non, non, c'est la visio, faut se rendre compte que la visio, c'est un type d'interview qui n'a aucun rythme. T'as une espèce de barrière naturelle entre les intervieweurs et l'interviewé qui fait qu'il peut faire des tunnels beaucoup plus facilement parce qu'on n'a pas de réaction plateau, on peut pas lui couper la parole, on peut pas donner du tempo, etc. Les visios, c'est... Et ouais, c'est ça, une latence. Il y a une latence et tout, et en fait, ça casse le rythme de l'émission. Et c'est trop dommage quand t'es en plateau, quand t'as une dynamique plateau avec un public, etc. C'est trop dommage de faire une visio. Alors après, il y a des exceptions. Par exemple, quand on avait fait... parfois, on fait des visios sur des temps assez courts. Parce qu'on veut avoir un invité juste sur un point particulier. Donc là, c'est pas l'invité politique, c'est un invité où effectivement on assume de faire une visio parce qu'on a quand même quelques questions à poser. Mais c'est quelques questions, tu vois, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, pas beaucoup plus. Arthur Saradin, qu'on avait hier soir en visio, par exemple, lui, il est à Beyrouth. Mais là, c'est très différent. C'est pas un invité politique, Arthur Saradin, c'est un journaliste à qui on demande de nous expliquer. Donc là, la visio, ça se justifie d'autant plus qu'il est pas à Paris, donc c'est impossible de l'avoir en plateau. Mais parce qu'en plus, la dynamique de l'interview n'est pas une dynamique d'interview politique. Donc là, on peut faire une visio. Donc voilà, donc on a laissé tomber Bernard Guetta et on a fait Edoui Plenel à la place et ça s'est bien passé. Et puis voilà, de toute façon, c'est les aléas du direct, les amis, hein. C'est ça l'histoire de Baxit, hein. Vous ne voyez que 10% du travail qu'on fournit. Voilà, vous ne voyez pas, par définition, vous ne voyez pas les difficultés qu'on a à trouver un invité politique, à monter une interview, à trouver des ressources, à trouver des assets à diffuser, etc. Ça, c'est les embrouilles, c'est la difficulté. La partie sur le Liban était top, ça a permis de mieux comprendre la situation. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis très content de la séquence d'hier sur le Liban, qui a été rendue possible par deux journalistes exceptionnels. On avait Laurent Célinder et Arthur Saradin, qui tous les deux étaient super chouettes. Enfin, j'ai appris plein de trucs, hein. C'était hyper intéressant, hyper intense. On comprenait mieux. J'ai l'impression d'avoir un peu mieux saisi les difficultés et les enjeux de ce qui se passe au Liban. Alors, comme à mon avis, je n'ai fait que gratter la surface, mais même moi, j'ai appris plein de trucs. Je suis très content que vous ayez vu le visage de Laurent, mesdames et messieurs. Vous avez rencontré Laurent Célinder, vous ne le connaissiez pas, et pourtant il a fait Baxit pendant 2 ans, Laurent. C'était lui le journaliste qui travaillait sur l'édito de toutes les émissions Baxit, les interviews, le machin et tout. Et qui a quitté Baxit à la fin de la saison dernière pour aller s'installer au Liban. Faire son boulot pour L'Orient Le Jour, donc qui est le journal pour lequel il travaille. C'est pas un journal, c'est un site internet d'information. Est-ce qu'on peut revoir Baxit quelque part? Absolument, on peut revoir Baxit sur la chaîne YouTube de Baxit. Si tu es donateur de Baxit, comme tu es donateur de Baxit, tu as accès à l'intégralité du replay de l'émission d'hier soir sur la page Kiss Kiss Bank Bank de l'émission. Et si d'aventure tu n'es pas donateur de Baxit, ce qui peut arriver, même à des gens bien, tu peux avoir accès au replay intégral sur ma chaîne Twitch. Puisque tu es abonné. Les abonnés de ma chaîne Twitch ont accès à l'ensemble des replays de ma chaîne Twitch des 2 derniers mois. Voilà. Le passage avec Arthur était super, c'est dans ces moments qu'on est content que Baxit existe. Eh ben merci. Très content que ça vous ait plu. C'est un média très respecté, L'Orient Le Jour, pratiquement la seule source fiable sur ce pays. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais effectivement, L'Orient Le Jour est une source d'information très respectée. Ce sont des journalistes de grand talent qui font un travail difficile. Ouais. L'Orient Le Jour, c'est vraiment du sérieux sur les enjeux du Proche-Orient. Attends, je vais virer le slow mode. On est entre nous, c'est tranquille, c'est vendredi, pas la peine d'avoir un slow mode, tout va bien. Est-ce que tu as des infos sur ta participation au sommet des maires européens à Strasbourg? Oui, ce sera le 21 octobre prochain, je crois. Il y a un sommet des maires européens qui se tiendra à Strasbourg que je vais animer. Voilà, si vous voulez venir, ça va être intéressant. On va discuter avec des maires européens. Donc venez. J'ai pas beaucoup plus d'infos, je t'avoue. Je pense que Google vous donnera plus d'infos, notamment sur le lieu, l'horaire et tout. Cette fois, tu viens à la maison, je viens à savoir. Ah, on peut s'organiser, on peut s'organiser. T'inquiète, mon pemph. Tu parleras en anglais? Non, ce sera en langue française. Est-ce que tu connais la liste des maires? Non, c'est en cours de définition. On va bosser dessus la semaine prochaine. Backseat, c'est jusqu'à quand? En décembre. Je suis pas sûr qu'on ait déjà calé les émissions de décembre. Hein. On verra. Ça va dépendre de beaucoup de calendriers, etc. On fait rentrer des carrés dans des ronds comme d'habitude. Décembre, décembre, décembre. Poum, 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 poum. Ouais, peut-être le jeudi 19 décembre. Ce sera peut-être la dernière avant les vacances. Mais je peux pas te l'affirmer, hein. Je sais pas. Couverture des élections américaines en perspective dans Backseat. Bah, Backseat est une émission d'actu politique. Donc, si l'actualité politique est marquée par le scrutin américain, il y a des chances qu'on en parle dans Backseat, oui. Et vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas nous qui décidons de quoi on parle dans Backseat, hein. C'est l'actu. Donc, ouais. Oui, je suppose qu'on va en parler, ouais. Bien sûr. C'est quoi les travaux qui sont prévus dans le studio? Ouais, je suis désolé, il n'y aura pas Backseat les 2 prochaines semaines, les amis. Il n'y aura pas Backseat les 2 prochaines semaines parce qu'il y a des travaux qui sont prévus dans le studio. Et je crois que ce sont des travaux qui visent à installer la clim. Tu me diras, avec le temps qu'il fait, je vois pas l'intérêt, mais l'été, c'est vrai que l'été, on meurt de chaud sa mère dans le studio. Et donc voilà, donc on aura la clim. Voilà. Enfin la clim. Donc le prochain Backseat aura lieu le 31 octobre. Et je crois, sans dire de conneries, que les places sont déjà en vente. Point d'exclamation, place dans le chat. Vous pouvez venir. Ouais, le 31 octobre. C'est déjà en vente. Pouvez prendre votre place. Tarif réduit, tarif plein. D'ailleurs, je le redis, mais il y a beaucoup de gens que je rencontre, notamment quand je fais des dédicaces de mon livre, etc., qui me disent, ouais, j'aimerais bien venir à Backseat, mais je connais personne. Il faudrait que je trouve des gens pour venir avec. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais je vous le redis, n'hésitez pas à venir seul à Backseat. Si vous connaissez personne, machin, vous inquiétez pas, vous trouverez sur place. Hein. C'est des dizaines de personnes super sympas. Moi, je suis là. Il y a les chroniqueurs et tout. Voilà, ça va être très cool. Vous trouverez des potes sur place sans souci. Mais je sais, je suis le premier à flipper à l'idée d'aller tout seul à un événement de YouTube ou de Twitch, tu vois. En vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à venir tout seul. Vous serez ni le premier ni le dernier. Vous serez pas le seul ou la seule le jour J. Voilà. Et sinon, bah venez avec vos potes, ouais. Ramenez quelqu'un. Comment on fait pour venir? Point d'exclamation place dans le chat. Ça te renvoie vers un lien WizEvent qui te permet, c'est une billetterie qui te permet de prendre ta place pour venir. Autre possibilité, rejoindre le club Backseat sur la page KissKissBankBank, donc du financement participatif de Backseat. vous pouvez rejoindre le Club Backseat qui vous donne accès en illimité au public. J'aimerais bien venir, mais j'habite pas à Paris. Il y a plein de gens qui viennent à Backseat qui n'habitent pas à Paris. C'est des gens avec qui je discute, parce que moi je discute avec le public après l'émission, on boit des bières, on papote et tout. Et il y a des gens qui me disent, bah en fait on vient pas de Paris, mais on était de passage à Paris. Et du coup on s'est dit, vas-y, let's go, on va à Backseat, on en profite, on est de passage à Paris. Donc si tu passes à Paris un jour, et qu'il y a un jeudi soir où t'es libre, profites-en, ramène-toi. Est-ce qu'on peut faire un date à Backseat? En vrai, ouais. En vrai, ouais. Ramène ton date. Hein. Meilleur date, je trouve. Il y a combien de places dans le public? Est-ce que vous êtes full à chaque fois? En fait, dans le public, dans les gradins, je crois qu'on a 35 ou 40 places assises. Et on peut rajouter des chaises qui nous permet de monter jusqu'à, je crois, 50 ou 60 personnes. Et en général, on est plein, ouais. En général, on est plein. Voilà. Un Backseat dans le sud de la France, ça vous chauffe pas? Alors, c'est toujours pareil, hein. Moi, tout me chauffe, hein. C'est pas une question de chauffage. C'est pas une question de chauffage, c'est une question de fric. Faire Backseat ailleurs que dans notre studio habituel, ça nous coûte 10 000 euros de plus. Donc il faut qu'on trouve des partenaires qui nous aident à faire Backseat ailleurs qu'à Paris. On est en train d'y travailler, on est en train de trouver des partenaires, etc., des collectivités locales qui sont chaudes pour machin. On va essayer... Cette saison, on va essayer de faire des Backseat ailleurs qu'à Paris, dans des mairies, dans des machins et tout. On est en train d'y travailler. Mais... voilà quoi. C'est une question de clim. Ouais, c'est ça. Faut demander à l'Elysée de subventionner, on a pas mal de fric à ce qui paraît. Je suis pas méga chaud pour que l'Élysée subventionne mon émission. Merci, hein. Merci l'Élysée, c'est gentil de proposer, hein, mais je vous propose qu'on... Voilà. Par contre, on peut recevoir le président de la République dans Backseat, ah oui. Après, ça dépend, hein, en vrai. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, on pourrait faire un Backseat spécial Élysée, où on visite les locaux, on discute avec le staff, on parle de la présidence de la République, on invite sur le plateau des constitutionnalistes qui viennent nous aider à comprendre le rôle spécifique et particulier du président de la République dans la Ve République. Franchement, on peut créer une émission assez cool, hein. Une émission de haute tenue éditoriale sur qu'est-ce que c'est que présider une république, qu'est-ce que ça implique, comment ça marche et tout. Ouais, franchement, ça peut être une émission cool. Hein. Oui, mais encore une fois, hein, c'est pas qu'une question de volonté, vous savez, moi si on se limitait qu'à ma volonté, oulala, attention, on serait déjà sur Mars, hein. Faut faire entrer des carrés dans des ronds, on va y arriver, on va convaincre, on va trouver, on va s'arracher les cheveux, on va faire des réunions, on va faire des visios, ça va être génial. Pourquoi sur Mars il n'y a pas de public? Ça, c'est ce que la NASA essaie de te faire croire. On fait une émission sur Mars et on invite Elon Musk. La gêne. Avec Hugo Lisoire en chroniqueur. Et Stardust. Fait une émission spéciale espace. Et Jacques Cheminade. Oui, c'est vrai, Jacques Cheminade aussi. On fera une visio avec Jacques Cheminade. Ah, ça, ce serait une bonne émission. Quels sont les tenants et les aboutissants de la politique de Mars? Ok. Sponsor par le CNES. Grave, sponsor par le CNES. Salut Jean, j'ai été très touché par le discours d'Edoui hier. Le discours d'Edoui était très touchant. Je te l'accorde, c'était... Donc c'était la première chronique, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous annoncer, ça y est, voilà. Maintenant, vous le savez, le nouveau chroniqueur de Backseat, qui va venir chaque semaine, ou presque, faire une chronique dans l'émission, c'est Edoui Plenel. On l'avait reçu en mars dernier, lorsqu'il quittait la direction de Mediapart. Et on s'était rencontrés à cette occasion-là. On était restés en lien et on lui a proposé de nous rejoindre. Il a accepté avec grand plaisir, il était vraiment super chaud de rejoindre Backseat. Et donc, il nous a fait sa première chronique hier. C'était une chronique très, très Edoui Plenel. Effectivement, assez touchante et émouvante, pleine d'émotions. Il y a des gens qui ont pleuré hein, dans le public, sur place, hier soir. Il y a des personnes qui ont été très émues. Je souhaite qu'on augmente le salaire de celui qui a trouvé le titre Edouito. Devine qui c'est. Devine qui a trouvé le titre de la chronique d'Edoui. Eh ben c'est Usul, évidemment. Vous avez tous trouvé, j'adore. Évidemment, c'est Usul. La semaine dernière, Usul qui fait franchement, la chronique d'Edoui, vous voulez pas l'appeler Edouito? Là, je regarde, je fais, mais c'est une super bonne idée. Fais, vas-y, let's go. Ah non, on est direct, hein, on a fait, vas-y, ça part direct. Hein. Très très bonne idée, merci Usul, heureusement qu'il est là. J'aimerais mieux comprendre le financement des politiques, éducation, santé, sécurité sociale, etc. Eh ben écoute, ça tombe bien, le budget 2025 est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Tu peux télécharger sur le site internet du ministère du budget le projet de loi de finances. Tout est expliqué dedans, tu verras. C'est vachement bien fait. Il y a des tableurs et tout, non, il y a des chiffres. Et blague à part, le ministère du budget a un site internet très didactique. C'est assez bien fait. Ils ont tout un ensemble de trucs d'explications et de pédagogie sur le budget de l'État, des collectivités, sur la dette, sur le déficit, etc. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est niveau révision lycée, tu vois. Lycée. Le ministère du budget, de l'économie plutôt. Non, tu confonds. Tu confonds le ministère de l'économie et le ministère des finances. Généralement, il y a un seul et même ministre qui s'occupe de l'économie et des finances, mais il a un ministre délégué qui s'occupe spécifiquement des finances, et pas du reste de l'économie. Pourquoi Vincent faisait sa dernière dans Backseat? Parce que son livre. Non, 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 Vincent, c'était pas sa dernière chronique. C'est juste que là, il va partir, effectivement, rédiger un livre. Il va écrire un livre, Vincent. Et que, du coup, pendant un mois, je sais plus combien, je crois un mois et demi, il sera plus là. Donc, voilà, c'est juste. Hier, c'était sa dernière chronique avant un petit bout de temps. Mais Vincent, voilà, il ne quitte pas Backseat. Hein. Il va bosser. C'est quoi la différence entre le ministère du budget et le ministère de l'économie? Le ministère de l'économie est un ministère qui s'occupe du développement économique du pays, c'est-à-dire de la question des entreprises, de la question de leur financement, de la question de la structuration de l'économie en général, la circulation des biens, des services, etc. Le ministère des Finances s'occupe spécifiquement du financement de l'État et des collectivités locales, et en partie de la Sécu. Voilà. Le ministère des Finances, qu'on appelle aussi le ministère du Budget, s'occupe du budget de l'État. Pas des Français, pas des gens, pas des ménages, pas des entreprises et tout. Non, non, du budget de l'État. Voilà. Alors, les deux sont intimement liés. Pour une raison précise, c'est que le budget de l'État est un outil de politique économique. Si dans le budget de l'État, on décide de monter, baisser les impôts, ça va avoir des implications sur la santé économique du pays. Donc, c'est pour ça que les deux ministères sont liés l'un à l'autre. Mais c'est pas exactement la même chose, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, ça répond à ta question, Asmaral, de pourquoi le ministère du budget est sous les ordres du ministère de l'économie. Parce que l'économie du pays dépend en grande partie de l'action ou de l'inaction de l'État. Pour être plus large, des pouvoirs publics. Il n'y a pas que l'État, je vous rappelle, il y a aussi les collectivités locales et il y a aussi la sécurité sociale. C'est pour ça que le budget, donc la loi de finances qui est votée chaque année, est l'une des lois les plus importantes de l'année, puisque c'est elle qui, en réalité, va supporter la politique du gouvernement. Si le gouvernement veut mener une politique en faveur de l'éducation, eh ben on va le voir dans le budget, puisqu'il va augmenter le budget de l'éducation. Ou l'arranger différemment, on verra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple que je vous donne, mais vous avez l'idée. Et pareil pour l'économie. Si l'État veut encourager la consommation, alors il va mener une politique de la demande, et on va le voir dans le budget, puisqu'il va y avoir des mesures budgétaires, fiscales, de subventions, etc., qui vont aller dans le sens de... Voilà. Sur info.gouv, j'ai trouvé le rôle du gouvernement de Marie-Claire Carrère-Gée. Elle est ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de la coordination gouvernementale. Est-ce que c'est pas le rôle du Premier ministre de faire ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Et personne ne comprend, je te le rassure, effectivement. Dans le gouvernement de Michel Barnier, il y a une ministre chargée de la coordination gouvernementale, ça ne veut rien dire. C'est effectivement le rôle du Premier ministre. La coordination gouvernementale par l'arbitrage. C'est le rôle du Premier ministre de la cohérence de l'action gouvernementale. Donc je sais pas à quoi elle sert, cette ministre. Je rigole pas, hein, je sais pas à quoi elle sert. D'ailleurs, je te rappelle que Adèle en avait fait des blagues dans sa chronique la semaine dernière, vous vous souvenez? Elle en avait parlé de ça, elle avait justement fait remarquer que... À quoi elle sert, cette ministre? Mais ça arrive hein, que dans des gouvernements, il y ait des ministères, on comprend pas très bien à quoi ils servent. Hein. Je me souviens de Arnaud Montebourg, qui était ministre du redressement productif. Alors, quand c'était sorti, il y avait pas mal de gens qui disaient que le redressement productif, ça s'appelle une érection. C'est pas la peine d'en faire un ministère, hein. Mais bref, donc voilà, bon, en réalité, si, il s'occupait de la coordination de l'action gouvernementale en faveur de la réindustrialisation, donc il était en lien direct avec le ministre de l'économie et des finances, il était en lien avec le ministère de la cohésion des territoires, etc. Donc ok, ça a du sens. Donc c'est, oui, c'était pas complètement vide comme ministère. Après, il y a des ministères, on croit qu'ils servent à rien, mais c'est juste parce qu'on sait pas très bien comment ça marche. Et du coup, on a l'impression que ça sert à rien parce que l'intitulé est vaseux. Par exemple, le ministère de la cohésion des territoires. Ministère de la cohésion des territoires, quand tu connais pas grand-chose en politique, tu te dis « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» À quoi ça sert ? Et en fait, c'est hyper important. C'est giga important. C'est le ministère qui s'intéresse aux collectivités locales, à la décentralisation, à la déconcentration, à la répartition des compétences. C'est un ministère ultra stratégique. C'est là que sont décidées et négociées la question du financement des collectivités locales, leur capacité d'endettement, leur action, leurs compétences, etc. C'est giga important. Et après, il y a un autre ministère qui paraît vaseux, c'est le ministre des Relations avec le Parlement. Pareil, ministre des Relations avec le Parlement, quand on n'y connaît pas grand-chose en politique. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il sert à quoi celui-là? Il se fout de notre gueule ou quoi? Tout ça, c'est payé avec nos impôts? Bon, en fait, il est super important, le ministre des Relations avec le Parlement. Comme son intitulé l'indique, il est responsable de la coordination du travail gouvernemental avec l'articulation du Parlement. Et je vous rappelle que le Parlement, c'est le machin qui vote les lois. Bah ouais, mais une action gouvernementale sans loi votée, ça ne sert à rien. Donc en fait, tout gouvernement a besoin du Parlement pour travailler, pour avancer, pour mener une politique publique, quelle qu'elle soit, quel que soit l'angle. Donc, le ministre des Relations avec le Parlement, c'est celui qui s'occupe de la coordination de l'action gouvernementale avec l'action parlementaire, l'agenda du Parlement, les véhicules législatifs, la coordination en lien avec le secrétariat général du gouvernement, les relations avec les groupes parlementaires pour négocier, simplement négocier, etc., etc. Le 49-3, c'est pas la décision du ministre des Relations avec le Parlement, c'est la décision du Premier ministre. Mais effectivement, c'est sur les indications de son ministre des Relations avec le Parlement que le Premier ministre peut être amené à engager la procédure de 49-3. Si son ministre des Relations avec le Parlement lui dit « Écoute, on est dans la merde, parce que la loi machin, je la sens pas, on n'a pas de majorité, on va se faire baiser, on n'aura pas assez d'abstention, etc. » C'est chaud, le Premier ministre peut être amené à dire « Bon, d'accord, dès lors je vais engager le 49-3. » C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un bon ministre des Relations avec le Parlement. Pour moi, c'est un des ministres les plus importants du gouvernement. Si un jour vous êtes Premier ministre, je me permets de vous suggérer de faire extrêmement attention à qui vous choisissez pour les relations avec le Parlement. C'est en grande partie ça qui va déterminer si vous allez réussir ou pas. Vous pouvez être le meilleur gouvernement du siècle. Si vous n'avez pas un bon ministre des Relations avec le Parlement, vous n'allez pas aller. Vous n'allez pas. Ouais, non. Vous irez nulle part. Celui d'Elisabeth Borne, il était bien ou pas du coup? Il était excellent. Il était excellent. Elisabeth Borne, elle a gouverné pendant un an et demi, alors qu'elle n'avait pas de majorité absolue. C'est du talent. C'était qui? À ma connaissance, c'était Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement de Elisabeth Borne. De mémoire. C'était Marie Lebec sous Attal. Ouais, t'as raison. C'était Marie Lebec sous Gabriel Attal, ouais. Il n'était pas à l'agriculture. Marc Fesneau, il était à l'agriculture sous Gabriel Attal. Pas sous Elisabeth Borne. Je crois... Attends, j'ai un doute. Je sais plus à quel moment il est passé de l'un à l'autre. Et si t'as une majorité absolue, t'as plus besoin de ce ministre? Oh, si. Oh si, parce que quand t'as une majorité absolue, ton enjeu c'est de la garder. Demande à François Hollande ce qu'il en pense. Demande à Lionel Jospin ce qu'il en pense. Demande à Dominique de Villepin. Mm-hmm. Excellente relation avec le Parlement, record de 49-3 en un an. Non, c'est faux, ce n'est pas un record. Le record, c'est 1988, le Premier ministre Michel Rocard. À l'époque, il n'y avait pas de limite du nombre de 49-3 qu'on pouvait utiliser dans la même année. Quels sont ses leviers si la majorité ne veut plus suivre ? C'est une bonne question, ça. Quels sont tes leviers quand t'es Premier ministre et que ta majorité te pète les burnes ? L'engueulade ? La menace ? Le chantage ? Et la négociation, tout simplement ? La négociation ? Vous voulez pas voter ma loi ? Ah bon ? Qu'est-ce qui vous dérange dans ma loi ? Eh ben, déposer des amendements, et puis on verra si je les accepte, vos amendements. Peut-être que ça va vous aider à voter ma loi si j'accepte vos amendements. C'est ça, une négociation. C'est aussi simple que ça. T'en vire un pour donner l'exemple. Le gouvernement n'a pas les moyens de virer des parlementaires. On est bien d'accord. Encore heureux. On vit quand même dans ce qui ressemble à une démocratie. Enfin, je veux dire, à un moment, le gouvernement ne peut pas virer un parlementaire. Par pitié. L'inverse, c'est vrai. Par contre, les parlementaires peuvent virer le gouvernement. Imagine. Non, mais voilà. Alors, je pense qu'en Iran, ça doit être possible, ouais. En Iran, ça doit être possible. En Corée du Nord, ça doit être possible. En Irak, sous Saddam Hussein, ça doit être possible. Il y a 2-3 pays où, effectivement, il y a des possibilités de... Voilà, le gouvernement peut liquider physiquement un député. Sans que personne s'en émeuve. Est-ce qu'on peut le faire virer du groupe parlementaire ? Bah, non, mais enfin, ça se fait dans la discussion, c'est-à-dire que... Le ministre des Relations avec le Parlement peut très bien, ou le Premier ministre, hein, peut très bien dire au président du groupe majoritaire, qui est censé être le garant de la cohésion du groupe, lui dire, écoute mec, comment ça se fait que dans ton groupe, il y a des mecs là qui pètent les burnes et qui menacent de pas voter les lois ? Qu'est-ce que tu fous ? Bah, va leur parler. La démocratie, c'est quand c'est ceux qui gagnent les élections qui gouvernent. Ouais. En partie, ouais. Si tu fais référence à la coalition entre les macronistes et LR, effectivement, ils ont remporté les élections de juin dernier. Le danger des fenêtres mal fermées. Il y a 2 députés démissionnaires avec élection partielle en vue, le quorum de l'Assemblée est de 175 du coup. Oui, absolument. Le temps qu'on procède à de nouvelles élections anticipées, dans ces circonscriptions-là, il y a une réduction du nombre de députés, c'est vrai. Et du coup, Lucie Castet pourrait être amenée à devenir députée si elle est parachutée en... Je crois que c'est en Isère, notamment. Il y a une élection partielle qui va avoir lieu en Isère, donc Lucie Castet pourrait être effectivement... candidate, on verra. On en pense quoi des macronistes qui disent voter la prochaine censure suite aux engueulades avec Barnier ? Est-ce que c'est crédible ou juste un coup de com ? C'est une bonne question que tu poses. C'est probablement essentiellement un coup de com. On verra combien de députés macronistes censurent Barnier. Je pense qu'il y en aura 2 ou 3 à tout péter, mais pas beaucoup plus. Du reste, les députés menacent pour faire monter la pression, en fait. Faire monter les enchères. On est en phase de négociation permanente, hein, c'est normal. C'est comme quand Gabriel Attal dit « y a trop d'impôts dans le budget, ça ne me convient pas ». C'est une négo, en fait. qu'est-ce qu'elle irait faire au Parlement? Elle siégerait avec qui? Alors ça, c'est une bonne question. Si Lucie Castet arrivait au Parlement, avec quel groupe est-ce qu'elle siégerait? Pas facile, parce qu'il y a quatre groupes au NFP. D'autant que la circo dans laquelle elle va potentiellement se présenter est une circo qui est fléchée à LFI. Du coup, LFI pourrait être en position de dire à Lucie Castet, écoute ma grande, si on te file la circo et que tu la gagnes, tu viens siéger avec nous. C'est quoi le bail de législatif partiel? Il y a des députés qui ont annoncé leur démission de l'Assemblée nationale. Ils ont été élus en juin dernier, mais ils présentent leur démission pour des raisons... Je crois qu'il y en a un des deux, c'est un député RN qui démissionne pour des raisons personnelles ou familiales, je sais pas. Donc, j'ai pas le détail, mais bon, voilà, écoute, il démissionne de son poste. Et quand un député démissionne, on organise de nouvelles élections dans sa circonscription pour élire un nouveau député. C'est une maladie? Bon, ben voilà, écoute, t'as un député qui est atteint par une maladie, qui peut pas assurer son mandat, donc il démissionne. Ce qui est tout à fait compréhensible. C'est des choses qui arrivent, hein. Pas la première fois. Il n'y a pas des histoires de suppléants. Alors, les histoires de suppléants, non, ça ne s'applique que dans deux cas. Le suppléant ne remplace le député à l'Assemblée que dans deux cas, soit parce que le député est devenu ministre, est rentré au gouvernement, soit parce que le député est décédé. Mais si c'est un choix volontaire du député de mettre fin à son mandat, alors il met automatiquement aussi fin à sa suppléance. Donc, il faut faire une nouvelle élection. Quel intérêt autre qu'essayer d'exister médiatiquement pour Lucie Castet de s'y présenter maintenant? Je comprends pas ta question. Quel est l'intérêt de devenir député? C'est ça la question que tu poses? Quand on est candidate à Matignon, c'est quand même mieux d'être député qu'être autre chose. Je sais pas, la légitimité, l'élection, le suffrage universel. Non, je sais pas. Ouais. Coalition a posteriori, est-ce que c'est malhonnête démocratiquement pour les électeurs? Vraie question, on pourrait régler cela. Est-ce qu'on pourrait réglementer cela? Non. Non, on ne réglemente pas les coalitions entre partis politiques avant ou après les élections. Ça dépend du type de scrutin et ça dépend du positionnement politique des partis. Il y a des partis qui font alliance après les élections et des partis qui font alliance avant l'élection. Ça ne change pas grand-chose. En réalité d'un point de vue numérique et d'un point de vue politique. Dans toutes les démocraties d'Europe, on fait des alliances après les élections. Parce que ce sont des élections au scrutin proportionnel, que du coup les partis se présentent à l'élection, ils comptent et ils comptabilisent leur poids politique par le nombre de votes qu'ils ont, et sur la base de ça, ils mènent des négociations pour former des coalitions. Ça s'appelle une démocratie fonctionnelle, ça, c'est normal. Ensuite, il y a des démocraties comme la France, où on fait des coalitions avant l'élection, parce qu'on a un scrutin majoritaire, un truc hérité du général de Gaulle, de Michel Debré, etc., qui fait que les partis ont intérêt à ne pas se gêner les uns les autres dans les circonscriptions, et donc à faire des coalitions pour flécher les circonscriptions parti par parti, et après avoir un décompte en nombre de députés qui correspond à cette élection-là. Ça, c'est critiqué. Donc ce mode de fonctionnement de la Ve République en France est critiqué par la gauche depuis 70 ans. La gauche déteste le scrutin majoritaire. C'est un truc de droite, c'est un truc légitimiste, c'est un truc de gaulliste, etc. La gauche réclame un scrutin proportionnel depuis toujours. Mmh. Ce qui compte, c'est pas le moment où la coalition est faite. Ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale qui sont d'accord pour faire la même chose. C'est la seule chose qui compte. Si vous avez une majorité de députés qui sont d'accord pour ne pas censurer un gouvernement, alors ce gouvernement peut gouverner. C'est aussi simple que ça. Le FNRN n'est pas pour la proportionnelle aussi. Si, le Rassemblement National réclame une élection proportionnelle en France, pour une très bonne raison, c'est qu'ils ont des grandes chances de la remporter, cette élection proportionnelle. Je vous rappelle que la dernière proportionnelle qu'on a eue en France, ça s'appelait les européennes, et que Jordan Bardella a fait plus de 33% des voix. Sur la base de ça, on peut comprendre que le RN souhaite, comme la gauche, une élection proportionnelle. Vous ajoutez à ça le Modem, qui lui aussi souhaite une proportionnelle depuis toujours. Vous ajoutez à ça les macronistes qui disent qu'ils sont pas fermés à l'idée. Et vous avez potentiellement une majorité favorable à l'instauration d'une proportionnelle. Le RN n'aura jamais de majorité absolue. Ça, déjà, on n'en sait rien, on verra. Encore une fois, attention, ça dépend de la proportionnelle. Hein. Proportionnelle en un tour, proportionnelle en deux tours, proportionnelle avec prime majoritaire, etc. Voilà, ça dépend du mode de proportionnelle qu'on choisit. Mais le RN, quoi qu'il en soit, pourra arriver en position de force pour permettre la création d'une majorité sur la base de ses propositions. Si durant toute ta campagne tu dis je suis radicalement opposé à X et qu'après les élections tu t'allies avec X, c'est un peu comme avoir menti à tes électeurs durant l'élection. Oui, mais ça c'est le problème des partis. Tu fais sans doute référence à la France Insoumise, qui a juré la vie de sa mère que jamais il ferait d'alliance avec les socialistes, et qui dès que l'occasion s'est présentée, on fait une alliance avec les socialistes. Est-ce que LFI a menti à ses électeurs? LFI a trahi ses électeurs? Ça, c'est une discussion que les LFI doivent avoir entre eux. Demain, c'est vrai aussi pour les socialistes. Hein. On ne fera jamais d'élection avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, bah, ils l'ont fait. Mais regarde les élections en Allemagne. C'est exactement pareil. Regarde les élections en Allemagne. Les sociodémocrates qui s'allient avec les libéraux. Je pensais plutôt à LR et les macronistes en vrai. Ouais. LR aussi avait dit qu'il ferait pas d'alliance avec les macronistes, ouais. Ouais. Quand est-ce que LFI a dit ça? De quoi? Qu'il ferait pas d'alliance avec les socialistes? Ils l'ont dit et répété entre 2012 et 2022. Pendant 10 ans. Je vais chercher, je suis sceptique. T'es sceptique de l'inimitié de LFI vis-à-vis du Parti Socialiste? Enfin, tu peux l'être. Hein. La France Insoumise est un parti qui a été créé sur la base du Front de Gauche et du Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon. Il a été créé par un homme qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a claqué la porte du Parti Socialiste en 2008 en jurant que plus jamais il n'y retournerait et qu'il ne ferait jamais alliance avec eux. C'est ça la base politique historique de la France Insoumise. C'est le rejet du Parti Socialiste. C'est le refus de faire alliance avec les socialistes, c'est le refus de soutenir un gouvernement socialiste qui a déçu, qui a trahi, etc. Mmh. Comme le modem et l'UMP. Exactement. Comme le modem et l'UMP. Et donc, tu partages avec moi le délice de cette ironie qui consiste à voir aujourd'hui le modem dans le même gouvernement que les Républicains. Le modem, c'est un parti qui est né du refus de l'alliance avec l'UMP, de l'UDF avec le RPR. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est le nombre de députés que vous avez, au bout du bout. Mélenchon déteste François Hollande et maintenant ils sont dans la même coalition. Absolument. Le nouveau Front Populaire est une alliance politique qui va de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande. Intéressant. Je croyais que ce qui comptait, c'était la force des convictions et le pouvoir de l'amitié. Ça compte, ça compte. Mathilde Panot au JDD, avant les législatives 2022, le PS a été très clair, Anne Hidalgo ne voulait rien construire avec nous. Nous avons pris acte de ses attaques et de son refus de tirer un bilan lucide du quinquennat de François Hollande. Dans la dernière semaine de campagne, Jean-Luc Mélenchon était devenu l'ennemi public numéro 1. Pendant ce temps, elle ne disait rien sur Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Il n'y aura donc pas de discussion et ce refus est définitif. Voici la déclaration de Mathilde Panot, effectivement, quelques jours avant que des discussions soient effectivement entreprises avec le PS pour créer la NUPES. Mais c'est pas... Enfin bon, c'est... On peut charger Mathilde Panot, mais en fait, on peut aussi charger le PS. Parce qu'elle a raison, Mathilde Panot, le PS, pendant toute sa campagne, ils ont tapé contre la France Insoumise. Il y a un certain nombre de responsables du PS qui considèrent que la France Insoumise, c'est le problème numéro un du pays, etc., machin. Et c'est les mêmes qui vont discuter avec la France Insoumise après pour faire la NUPES. Donc, faut pas charger la France Insoumise pour le plaisir de charger la France Insoumise. Hein. Ils sont pas plus étranges que les autres. La différence, c'est que les alliances ont eu lieu avant les élections versus après pour Barnier. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Encore une fois, ce qui compte, c'est le nombre de députés que tu réussis à faire élire. C'est un peu comme le NPA qui refuse le système électoral, mais qui est obligé de s'y prêter. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Tout ce qu'on est en train de raconter là. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Qu'est-ce que ça nous indique ? Qu'est-ce que ça trahit ? Bah, simplement le fait que la politique, elle est faite parfois de tensions, de subtilités et d'incohérences. Il y a ce que tu souhaites profondément, ce que tu veux, ce en quoi tu crois, et il y a ce qui appartient du domaine du possible, du réalisable et du souhaitable. Parfois, tu dois faire des compromis. Tu dois te mettre d'accord. T'es obligé. C'est très spécifique, hein, c'est un peu particulier. Donc ouais. Le contexte évolue. Oui, bien sûr, il y a le contexte. Il y a le contexte, il y a ce qui est préférable. C'est-à-dire qu'encore une fois, je veux dire, le Parti Socialiste et la France Insoumise étaient d'accord pour ne pas s'apprécier. Ok, très bien, ça je crois qu'on avait bien compris ça. Ils étaient aussi d'accord pour constater qu'ils avaient plutôt intérêt à se mettre ensemble plutôt qu'à être séparés l'un de l'autre. Et c'est également vrai. La NUPES et le NFP ont démontré leur efficacité. Les partis de gauche sont plus puissants ensemble que séparément. Donc, voilà. Contraint et forcé, bon gré mal gré, ils ont plutôt intérêt à se mettre ensemble plutôt qu'à être séparés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils auront mis le temps à s'en rendre compte. Bah, pas tant que ça, parce que... Pas tant que ça, parce que si tu regardes 2017, ça s'est mal passé pour la gauche. Le PS a été balayé, il s'est retrouvé avec un tout petit groupe de députés à l'Assemblée, le plus dur ça a été pour LFI. LFI qui avait fait 20% au premier tour de la présidentielle et qui se retrouve avec 17 députés. C'est microscopique, c'est que dalle. LFI, ils sont plantés là sur ce coup-là. Et donc en 2022, ils ont pas refait la même erreur. Ils ont dit, c'est bon, on l'a fait une fois, on a compris, maintenant on va se mettre d'accord avec les socialistes. Parce qu'on y a intérêt, mutuellement. En 2017, on sortait de la débandade de Hollande. Bah oui, mais ça explique pas pourquoi LFI s'est planté aux élections alors. Puisqu'ils étaient justement le parti qui critiquait François Hollande. Et qu'ils avaient fait 20% aux élections. Au moment du hollandisme et de Valls s'allier, ça aurait fait perdre des voix à la gauche. Eh ben non, parce que je te rappelle que celui qui a remporté la primaire, c'est Benoît Hamon, et que Benoît Hamon, il faisait partie des frondeurs. Donc justement, les personnes qui critiquaient François Hollande. Donc c'était pas Hollande qui gérait les négociations. Hein. La gauche divisée avec moins de 30% des voix au total, c'était 60 députés. Putain. Ouais, c'est ridicule, 60 députés. Oh, c'est microscopique. Donc, ouais, non, c'est... Vous avez déjà vu Hamon dans Backseat ? Ouais, ouais, on avait reçu Benoît Hamon, ouais, bien sûr. La première saison, je crois. Je sais plus. Il était revenu l'année dernière. Pour parler de son assaut, oui, il était revenu parler de Singa, t'as parfaitement raison. Oui, j'avais zappé. Il était revenu parler de Singa dans la saison 3. Ouais. Carrément. Hamon a complètement torpillé sa carrière politique tout seul. Quoi ? Comment ça ? Comment ça, il a torpillé ? C'est plutôt le poids du hollandisme qui a torpillé sa candidature en 2017. Et le succès de Macron. Pour toi, le NFP va durer combien de temps? Le NFP va durer tant que les parties du NFP y auront un intérêt. Par exemple, il n'y aura pas de NFP aux élections municipales. Parce que tous les partis n'ont pas intérêt à faire alliance avec tous les partis. Le NFP va probablement avoir du mal à exister sur l'élection présidentielle 2027. On verra. Je m'intéressais pas du tout à la politique en 2017, et pour moi, Hamon, c'était un Hollande V2. Ah non, non, non. Ah bah non. Bah non, Benoît Hamon, c'était un défrondeur. Justement. D'où le fait que Manuel Valls se soit barré de cette primaire en disant « Mais c'est mort. Je vais pas soutenir le mec qui m'a enfoncé. » C'est pour ça que les primaires, c'est jamais une bonne idée. Donc toi, tu te bases sur un exemple pour justifier que l'ensemble des primaires sont des mauvaises idées. Ok. Bah, je te propose de faire le même exercice. Alors, la primaire de 2011 qui a propulsé François Hollande à la présidence de la République, c'est la preuve que la primaire, c'est toujours une bonne idée. Tada! Pourquoi LFI refuse les primaires? Parce qu'LFI a déjà un candidat. Voilà. LFI a déjà un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui est le seul à faire des bons scores aux élections. C'est leur meilleur atout. C'est leur meilleur atout, c'est un parti qui est créé tout autour de la présidentielle, de la candidature à l'élection présidentielle. Et donc ils ne souhaitent pas de primaire. Jusqu'à présent. Attention, encore une fois, rien n'est définitif en politique. Rien n'est définitif en politique. Le dictateur JLM. Non, Jacques Mélenchon n'est pas un dictateur, hein. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un dictateur, c'est le leader charismatique d'une formation politique. C'est pas un dictateur. Un dictateur, il a le pouvoir déjà. Oui, voilà, c'est ça. Mais par exemple, c'est important à souligner. Mélenchon est marqué par le principe de courant au sein du PS. Oui, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a été minoritaire au sein du Parti Socialiste pendant des décennies. Il n'a pas envie de recréer au sein de sa formation politique des trucs qu'il a mal vécu au sein du Parti Socialiste pour de très bonnes raisons. Mm. Alors que le PS, c'est tellement la démocratie. Bah, ça l'est déjà plus, hein. Si tu regardes le dernier bureau national du PS, c'est très tendu au sein du PS parce qu'il y a des tensions entre les motions. Tu le réinvites quand, JLM, à Baxit? Bah, j'en sais rien, quand il fera l'actu. D'ici là, j'ai d'autres personnes intéressantes à interviewer. Qu'est-ce que vous avez pensé de Edwy Plenel hier, notre nouveau chroniqueur? Je suis très content de vous annoncer enfin la bonne nouvelle. Edwy Plenel rejoint l'équipe de Baxit pour une chronique chaque semaine. Ça t'a fait pleurer? Il était très touchant dans sa chronique, ouais. Bah ouais, je suis très content, ça va être chouette. L'Edwito, la nouvelle chronique de Baxit, avec Edwy qui viendra nous faire bah un édito, hein, du coup. Ça va être régulier, ouais, ça va être régulier, ça va être régulier. Edwy est très content de faire partie de l'aventure. Ce serait quoi le principe de sa chronique? Le principe de sa chronique, c'est ce qu'on s'est dit avec Edoui quand on a préparé le truc. On s'est dit, en fait, on trouve ça intéressant d'assumer le décalage entre le vieux journaliste et le public jeune à qui s'adresse Baxit. Donc on s'est dit, l'idée, c'est qu'Edoui nous fasse part de ses observations sur l'actualité qu'on est en train de vivre et surtout des leçons que l'histoire nous apporte de ce qu'on est en train de vivre. L'idée étant que Edoui, il en a vu d'autres. Edoui, il n'est pas sur. Enfin, c'est un vieux briscard du journalisme, c'est un vieux briscard de l'actualité politique. Il a vécu des époques que nous, on n'a pas vécues, il a vu des choses que nous, on n'a pas vues, et peut-être qu'à cette. Peut-être qu'avec cette. Avec ce passé-là, il peut nous éclairer différemment le présent. Donc c'est ça l'idée qu'on s'est dit, et puis ensuite on verra au fur et à mesure de l'avancée de la chronique. Il faut aussi qu'il s'y fasse, hein, comme tous les chroniqueurs de Baxit. Hein. Et oui, il était stressé hier, voilà, c'était sa première. Il a un peu besoin de se faire le truc, quoi. Emilio Mele et Namou avait déjà fait Baxit, j'avais l'impression de les découvrir hier. Emilio, il avait déjà fait Baxit à deux occasions, une fois quand il était venu en février dernier nous parler, mais là il était invité, il n'était pas chroniqueur, il était venu nous parler de l'interview de Emmanuel Macron dans l'UMA, à l'occasion de la panthéonisation de Manouchian. Et la deuxième fois, c'était au moment de la fête de l'UMA, quand on avait fait Baxit l'année dernière. Là, il était chroniqueur pour une seule émission. Mais j'étais très content de le retrouver. Par contre, Namou, c'est la première fois. Namou, c'est complètement la première fois. Edoui va faire des chroniques rigolotes comme Adèle, j'aimerais beaucoup. Non. Non, Edoui va pas faire des chroniques rigolotes. Ne vous attendez pas à ça, hein. Vous allez être déçus. C'est quoi le background de Namou? Namou, c'est une journaliste qui est un peu spécialisée sur les sujets de société et les sujets culture, qui bosse notamment pour le Bondy Blog. Voilà. Vu que Vincent part, est-ce qu'on aura Edoui d'Internet? Mais Vincent part pas, hein. Vincent ne quitte pas Backseat. Vincent va prendre un peu de temps pour écrire un livre. Il va partir écrire un livre. Donc voilà, Vincent va plus être là pendant un mois et demi, je crois, je sais plus. Il reviendra après, hein. Je pensais que Vincent avait fait ses adieux hier. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Enfin, au début de sa chronique, il explique qu'il va partir pendant un mois, et après, plus tard dans la chronique, il dit c'est ma dernière chronique, etc. Donc effectivement, ça peut perturber. On peut croire que Vincent est parti, mais en fait, non. Juste, il va prendre des vacances, quoi. En gros, enfin, voilà, il va pas être là pendant quelques émissions. Du coup, t'es un peu devenu le patron d'Edoui. Tu verrais la gueule du patron. Hein. Vincent a une montagne à gravir. Il est plus chez Mediapart, Edoui. Edwin ne dirige plus Mediapart depuis mars dernier, mais il continue à écrire des articles et à intervenir. Et normalement, ça aurait dû s'arrêter là à l'été. Mais c'est ce qu'il expliquait sur le plateau hier soir, c'est que l'actualité politique, notamment au Proche-Orient, a fait qu'il, d'un commun accord avec Mediapart, il a décidé de prolonger jusqu'à décembre chez Mediapart. Comment ça se passe, Backseat, juridiquement? C'est une asso, c'est comment? Backseat n'est pas une association, Backseat est une coproduction. Backseat est le fruit d'un contrat de coproduction entre moi, Jean Massier, et Equal Production, qui est une boîte de prod avec deux personnes, Quentin et François. Hein. Donc on est trois, en fait. On est trois coproducteurs à diriger Backseat. Et voilà. Ils produisent autre chose, tes partenaires. Ils ont des projets, ouais. Ils ont des projets de production d'autres trucs. C'est quoi le rôle d'un producteur dans Backseat? Un producteur en général. Dans la musique, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, c'est une personne qui fabrique un projet, une émission, un disque, une tournée, machin, qui le fabrique d'un point de vue administratif et financier. Producteur, c'est celui qui amène l'argent, c'est celui qui fabrique, qui produit. Ensuite, pour produire, il va avoir recours à des métiers. Un ingénieur du son, un caméraman, un réalisateur, des acteurs pour un film de cinéma, par exemple, des musiciens pour un disque, etc. Backseat, c'est pareil. Produire Backseat, c'est les dirige, c'est les patrons. On est trois patrons dirigeants de Backseat. On prend les décisions économiques, budgétaires, on tient le budget, on tient la ligne, enfin voilà. Et on a recours à d'autres personnes pour fabriquer l'émission. Des chroniqueurs, des journalistes, community managers, juristes, régisseurs, personnel technique. Qu'on embauche sous des contrats divers et variés selon les modalités, etc. T'as été une victime collatérale de la locomotive qui pète à Strasbourg hier? Ouais, absolument, on n'a pas pu avoir Bernard Guetta à cause de Des problèmes de la SNCF, ouais. C'est comme un architecte qui est en même temps chef de chantier. Ouais, c'est vrai. Mais de la même manière qu'un architecte, un producteur peut déléguer aussi la chefferie de projet, hein. Un producteur, il peut dire, c'est pas moi qui vais m'occuper de cheffer en permanence le truc. Je vais nommer quelqu'un qui va être producteur délégué, par exemple. Non, bah tiens, c'est Michel qui va diriger le projet en mon nom. Bon, nous sur Baxit, c'est pas le cas. Nous sur Baxit, on gère. On gère tout, voilà. Non, l'architecte ne paye pas. Oui, en plus, t'as raison, c'est pas le bon exemple, parce que l'architecte, c'est pas son immeuble qu'il construit. Il est embauché pour faire l'architecture de l'immeuble, mais c'est pas le sien, il le possède pas, c'est pas son argent et tout. Comment vous vous ajustez quand un invité ne peut plus à la dernière minute? Est-ce qu'il y a un plan de B prévu en amont? Non! Absolument pas, c'est un cauchemar. On en a. On peut pas anticiper ça, hein. T'as un invité qui t'appelle et qui dit je suis désolé, je suis bloqué dans les bouchons, ou je suis malade, ou je suis machin, je peux pas venir. Bah, tu peux pas te retourner, en fait. Donc, soit c'est la panique, on essaye de passer des coups de fil en urgence à d'autres personnes à qui on pense en disant est-ce que tu peux être là dans une demi-heure pour une émission? Je te garantis que la réponse, elle est non dans 99% des cas, hein. Donc, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a improvisé. Hier, on a improvisé de ouf. On a fait la chronique d'Adèle avant la pause. Ensuite, on a fait la pause. On a dit, on fait la chronique d'Edoui. Et ensuite, on discute avec Edoui. On a profité du fait qu'Edoui venait faire sa première chronique dans Baxit pour dire, bah, profitons de sa présence, on va papoter avec lui. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Là, on avait de la chance, hein. On avait de la chance. Ouais, franchement, on a eu de la chance. Mais franchement, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas eu Edoui? Qu'est-ce qu'on aurait fait d'après vous? Bah rien, en fait. On aurait fait une deuxième partie d'émission, on aurait juste discuté de l'actualité. On est un présentateur, trois chroniqueurs, vas-y, ça part, hein, on discute. On discute de l'actu, on est sur Baxit, ça a du sens. Bon, bah on prend un peu plus de temps pour venir plus en profondeur. Sur les sujets qu'on a déjà abordés, mais on en parle plus, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on aurait fait. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, hein. Du meuble. C'est bien parce que j'aurais été sur ma faim si Edoui était parti à la fin de sa chronique. Oui, alors ça, par contre, attention, hein, ce que vous avez vu hier, ça ne réarrivera pas. C'est-à-dire que Edoui, il va venir sur le plateau de Baxit faire sa chronique et ensuite il part. Il va pas rester avec nous discuter. Ça, il va pas le faire toutes les semaines. Ça, on l'a fait hier exceptionnellement. Mais non, non, pour les autres, il va faire comme Vincent et Adèle, il va venir et repartir. Voilà. Du coup, l'intervention de ce monsieur est reportée à une prochaine émission où le calendrier est déjà plein. Tu parles de Bernard Guetta? Bah, problème de Bernard Guetta, c'est que nous, on l'avait invité Bernard Guetta pour une bonne raison. Bernard Guetta, on l'avait invité pour une bonne raison sur Baxit, c'est que c'est l'anniversaire du 7 octobre. C'est l'anniversaire du 7 octobre et Bernard Guetta a été journaliste international et affaires étrangères pendant des années. Donc il a un regard, en plus il est député européen, donc il a un regard intéressant sur la diplomatie européenne, sur ce qu'on doit et ce qu'on peut faire, etc. Il a pris des positions qui sont parfois un peu différentes de celles d'Emmanuel Macron, donc on avait plein de questions à lui poser là-dessus. En plus de ça, en bonus, on avait aussi des questions à lui poser sur le gouvernement Barnier, parce qu'on a entendu Bernard Guetta dans certaines interviews dire qu'il avait des divergences de point de vue avec Barnier, donc ça nous intéressait. Donc voilà. Mais donc pour répondre à ta question, Bah non, on va pas réinviter Bernard Guetta à un autre moment, sauf si l'actualité le justifie à nouveau. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner plus la parole à Usul, s'il te plaît? Les autres sont trop de droite.
Oh Bichette! Oh Bichette, elle a mal aux oreilles. Oh, c'est choupi.
Les députés européens qui ne peuvent pas aller à Paris parce que la motrice du Thalys du Parlement européen est en rade. Non mais c'est trop drôle. C'est carrément trop drôle. J'avais pas le lien avec l'actualité immédiate. Après, s'il y a des choses intéressantes à dire, elles le seront même si c'est pas l'anniversaire du 7 octobre. Bah oui, mais Backseat est une émission d'actualité politique. On parle de l'actu. Donc on invite des invités en rapport avec l'actu parce qu'on estime qu'ils ont des choses intéressantes à nous dire. Sur l'actualité. Mais bon, t'as raison, malheureusement, le conflit au Proche-Orient va pas s'arrêter demain matin, donc on aura peut-être que plus tard dans la saison, on aura une autre opportunité intéressante éditorialement d'inviter Bernard Guetta. On verra. Mais là, on va avoir d'autres sujets, les amis, hein. On va avoir le budget, on va avoir le budget de la Sécu. Regardez un petit peu l'actualité politique ces prochains temps. Il y a aussi la gauche, hein. Il se passe des trucs à gauche. Moi, j'aimerais bien qu'on reçoive Raphaël Glucksmann. J'aimerais bien qu'on reçoive François Hollande. Il est en train de se passer des trucs autour du Parti Socialiste qui sont intéressantes. Il est en train de passer du truc du côté de Génération de l'après et de la France Insoumise aussi qui sont intéressantes. Donc voilà quoi. Hollande, ce serait un retour, il est déjà venu. Bah oui, mais il est retourné au Parlement, je te ferai remarquer, François Hollande. François Hollande est en train de prendre plus ou moins le lead de l'opposition à Olivier Faure au sein du Parti Socialiste. Très bien, ça m'intéresse. Est-ce que vous arrivez à avoir des invités de droite et du centre? Bah regarde, il y avait Bernard Guetta. L'année dernière, on a reçu Olivier Marleix. Aurélien Pradier. Donc oui. Richard Ramos, ouais. Roland Lescure, Clément Beaune, Yael Braun-Pivet. Oh non, mais enfin. T'as regardé l'interview de Hollande sur LCP, bien sûr. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Ce qu'il a dit dans l'interview d'LCP m'intéresse. Il a dit quoi rapidement? François Hollande a dit qu'il était temps que le PS ait un nouveau premier secrétaire. Voilà. C'est une attaque directe en direction d'Olivier Faure. Bon, c'est pas le seul à le dire. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant lui. Mais le fait que lui le dise, moi, ça m'intéresse. Il essaierait pas de se placer pour 2027 quand même? Si, c'est possible. C'est fortement possible. Non, et puis Raphaël Glucksmann aussi. Raphaël Glucksmann qui a fait une rentrée en Gironde, là, dans laquelle il a voulu annoncer la volonté de structurer son mouvement Place Publique pour en faire un vrai parti que l'on suppose être en mesure de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Avec une position anti-LFI, etc. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de l'interviewer. Inviter Attal, c'est possible, histoire de voir ce que Michel Barnier en pense. On verra. Oui, si, 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 Gabriel Attal, ce serait intéressant. Il est président du groupe majoritaire au sein de la coalition gouvernementale, donc oui. En plus, il critique le budget Barnier. Est-ce qu'il y aura une émission backseat sur les présidentielles aux États-Unis? Non, je pense pas qu'on en fera une émission spéciale. Je sais pas, en fait, j'en sais rien, on verra. C'est quoi la critique? Il y a trop d'impôts sur les riches? Oui, Gabriel Attal a déclaré qu'il y avait trop de hausses d'impôts dans le budget et pas assez de réformes structurelles. Vous prévoyez les invités combien de temps à l'avance? Bah, c'est une émission d'actu, donc pas très longtemps avant, hein. Maximum une semaine ou deux. Mais c'est parfois c'est 2 3 jours. D'ici juin, est-ce qu'il est possible d'envisager une réforme du mode de scrutin, genre avec la proportionnelle? Ça, c'est typiquement le genre de très bonne question à poser à Gabriel Attal. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Marine Le Pen réclame une réforme du mode du scrutin. La gauche réclame une réforme du mode de scrutin. Le MoDem y est pas opposé. Et Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'était pas hostile. On commence à avoir un alignement de planète, là. À mon avis, ça a coincé du côté de LR, comme d'habitude. LR, ils sont 15, qu'est-ce qu'ils peuvent bloquer? Déjà, ils sont pas 15, ils sont plus d'une trentaine. Et d'autre part, qu'est-ce qu'ils peuvent bloquer? Bah, ils sont au gouvernement, ils peuvent sortir du gouvernement sur un désaccord là-dessus, hein. S'ils ne soutiennent pas la position du gouvernement en faveur d'une proportionnelle, ils peuvent tout à fait se barrer. Est-ce que l'arrivée d'Edoui comme chroniqueur va faire venir ou repousser des invités politiques? Bah, ni l'un ni l'autre, parce que de toute façon, Edoui, il participera pas à l'interview des invités. Donc, les invités, ça change rien. Qu'il y ait Edoui ou pas, qu'il fasse une chronique dans l'émission, ça change rien. Si ça devient une proportionnelle, il n'y aura plus de députés élus au niveau local. Ça dépend du type de proportionnelle que tu mets en place. Il y a plusieurs types possibles, il y a des listes locales qui sont possibles. Ça dépend. Est-ce que tu sais si Backseat est un plateau que les politiques cherchent à faire ou ils rechignent un peu à venir? Non, Backseat, c'est plutôt une émission que les politiques cherchent à faire. Ils sont contents quand on les invite. Le truc, c'est que nous, on a une émission d'actu, donc on les invite au moment où ils sont dans l'actu. Et comme ils sont dans l'actu, ils sont très demandés par beaucoup de plateaux. Il y a un marché de l'interview politique qui fait que le moment où les politiques sont les plus en vue, c'est le moment où c'est le plus dur de les avoir. C'est normal, c'est le jeu. C'est le jeu. Et en plus, en général, les députés qui font l'actu, ils le font pour une raison qui leur impose beaucoup de travail. Donc ils ont moins de temps dispo pour aller courir les plateaux. C'est-à-dire qu'un homme politique ou une femme politique inconnue au bataillon qui n'a pas d'actualité particulière, bah personne n'a envie de les inviter en fait. Aucun journal, aucun plateau, aucune radio n'a envie de les interviewer parce que t'as aucune question à leur poser. Les mecs, ils font pas l'actu. En plus, on sait pas qui c'est. Enfin, tu vois, bon, voilà. À l'inverse, une personnalité politique nationale connue qui est au cœur de l'actualité parce qu'il se passe un truc là en ce moment qui le met au cœur de l'actu, bah là, tout le monde a envie de l'inviter. Tous les plateaux. Tout le monde a des questions à lui poser. Enfin, c'est le moment, quoi. Bon, bah voilà. Bah, nous, on est dans ce bain-là, à ce moment-là. Est-ce que Baxit rémunère ses invités? Non. Alors, jamais, nulle part, dans aucun média, pour aucune raison, un invité n'est rémunéré. Jamais. C'est précisément pour ça qu'on appelle ça un invité. Il vient indépendamment, librement, dire ce qu'il pense, ce qu'il a à dire et ce qu'il défend. Et c'est tout. Il n'y a aucune logique de redevabilité entre l'intervieweur et l'interviewé. Jamais. Les ménages, rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les invités, ça n'a rien à voir avec les interviews, c'est autre chose. Défrayé. Alors, il peut arriver que le média qui invite un invité lui paye un taxi pour le faire venir, enfin réserve un taxi pour le faire venir. Ça a deux avantages. D'une part, pour le média, ça facilite la venue de l'invité. Genre, l'invité, il n'est pas en mode ah putain, je dois prendre le métro, c'est galère, le RER, etc. Non. T'envoies un taxi, donc c'est gratos pour toi de venir. Voilà. Le deuxième élément qui est important avec le taxi, on n'y pense pas, mais c'est que ça te garantit que ton invité arrivera à l'heure. Parce que c'est toi qui réserves son taxi, donc il n'y a pas de surprise. Tu le prends en avance, tu sais qu'il arrivera à peu près à cette heure-là, donc voilà. Donc ça permet d'éviter les embrouilles du genre ah désolé, j'ai 10 minutes de retard. Ben oui, mais on est en direct, donc en fait, 10 minutes de retard, c'est pas possible pour nous. Tu vois? Donc voilà. Donc voilà, mais ce n'est pas une rémunération de l'invité. C'est un défraiement, si vous voulez. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites à Baxit? Pas beaucoup, pour des raisons de budget. J'aimerais bien qu'on le fasse plus, parce que ça peut nous aider. Mais vous connaissez KissKissBankBank? C'est une manière formidable de soutenir l'émission Baxit. C'est grâce à vous que l'émission Baxit existe d'ailleurs, parce que je vous rappelle que 2/3 du budget de Baxit, c'est vous. C'est votre participation et vos abonnements sur KissKissBankBank. Point d'exclamation KissKiss dans le chat. Fin de la parenthèse. Mais donc voilà, n'oubliez jamais, une personne invitée dans un média n'est jamais payée par le média. C'est une garantie de l'indépendance de cette personne vis-à-vis du média. La personne vient et elle dit ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, ce qu'elle défend. Y a pas de, elle n'est en rien redevable. En revanche, un journaliste qui travaille pour le média, lui, il est salarié du média. Un chroniqueur, il est payé par le média, parce qu'il vient faire une chronique qui est rémunérée par le média. Mais dans ce cas-là, il y a une redevabilité. Donc un chroniqueur, ce n'est pas la même chose qu'un invité. Il y a des invités qui payent sur certaines chaînes. Ouais, alors je crois que tu fais référence. Alors c'est pas très courant ce truc-là, mais effectivement c'est des émissions en partenariat où des invités payent pour venir être interviewés. Pour mettre en avant leur entreprise, etc. Alors c'est le cas par exemple pour les Before de Baxit. Les Before de Backseat, je vous rappelle que c'est un moment sponsorisé, c'est un placement de produit. Donc quand on fait un placement de produit en partenariat avec le partenaire vient sur le plateau et on discute sur le plateau. Et ça, c'est le before, c'est le moment justement sponsorisé de l'émission. C'est pas un invité politique, les autres chroniqueurs d'ailleurs sont pas là. Donc c'est une collaboration commerciale, comme dit la loi. C'est la version vidéo du publi-reportage. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, en gros. Dans l'idée. Donc voilà. Faut pas confondre invité et consultant. Non, non plus, effectivement. T'as raison. T'as déjà eu des invités avec qui ça s'est moins bien passé? Genre, il est dit, c'est mort, je reviens plus dans dans ce repère de gaucho. Non. Non, jamais. Tous les invités étaient contents de venir et m'ont remercié. Il y en a certains qui étaient déçus de leur propre prestation. Ça, c'est. J'ai envie de dire, c'est un peu leur problème. Pas trop le mien. Ah tiens, faut que je vous montre un truc. Attends, c'est marrant. Faut que je le retrouve. Hop. Alors attends, faut que je le retrouve là maintenant. Voilà, regardez. Merde. Lundi dernier, c'était quand? Non, c'était mercredi, c'est juste avant Backseat. Mercredi dernier, j'étais invité dans une librairie à Paris qui s'appelle Le Divan dans le 15e arrondissement. Librairie qui m'a invité à venir présenter mon livre et faire des dédicaces. Et donc c'était très cool. On a fait le machin. On était dans des canapes avec le libraire Pierre qui était assis à côté de moi et on discutait. J'étais là avec mon micro et tout machin. Et il y avait des gens. Merci d'ailleurs aux personnes qui sont venues. Hein, c'était un plaisir de vous rencontrer. C'était très très cool. Et là, regarde sur la photo. Il y avait Anne Hidalgo qui était là. Et c'était très très marrant. Cette photo me fait marrer. C'est trop drôle. Et donc il y avait Hidalgo. Mais c'est trop. Enfin, vraiment, c'était trop trop marrant parce que avant que ça commence dans la librairie, genre les gens sont là, ils s'installent sur leurs chaises, machin et tout. Et là, je vois Anne Hidalgo qui arrive dans la librairie. What? Du coup, je vais la voir, je l'embrasse, je fais salut Anne, ça fait plaisir de te voir, comment ça va et tout. Et elle me dit, non, non, mais en fait, ici, c'est ma librairie, en fait. C'est ma librairie de quartier. Elle m'a dit, bah, je suis là pour, c'est la nif de mon fils, je vais lui offrir un bouquin. Ben voilà. Genre, elle venait random dans sa librairie, tu vois, un mercredi. C'est plutôt moi. Elle m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je viens présenter mon livre. Ah, trop bien. Faut que tu me l'envoies et tout. Je vais te l'envoyer, t'inquiète, machin, pas de souci. Et voilà. C'est tout. Elle a pas pu rester, enfin elle n'est pas restée écouter parce qu'elle n'était pas là pour ça, tu vois. Mais voilà, elle m'a fait savoir qu'elle avait écouté d'une oreille ce que je disais, qu'elle trouvait ça vachement bien. Voilà. Elle aurait pu acheter ton livre. Elle aurait pu. Non, mais je vais lui envoyer, c'est bon. Du coup, ça te fait bizarre de vous voyez Anne Hidalgo en interview? Ah, je la vous vois pas en interview, Anne Hidalgo. Je la vous vois pas du tout. Tu la connais d'où, Anne? Bah, j'ai bossé pour elle. J'ai bossé dans ses équipes. J'ai fait sa campagne et tout. Oh, c'est bon. On se connaît. D'autres dates dans les librairies, à Paris ou ailleurs. Ouais, à Clermont-Ferrand. Merde, c'est quand déjà? Je me souviens plus. Elle est sympa? Bah oui, elle est très sympa. Enfin, tu sais, tous les politiques sont très sympas, hein. J'ai jamais rencontré de politique fondamentalement antipathique, en tout cas avec moi. Enfin, ils sont tous très gentils, hein. Tu peux m'expliquer pourquoi du coup c'est si tendu en Conseil de Paris? Est-ce que tu peux me citer une histoire? Est-ce que tu peux me citer une année dans l'histoire de Paris où ça n'a pas été tendu au sein de l'instance dirigeante? Mélenchon, il t'a pas engueulé, je suis déçu. Non, c'est moi qui l'ai engueulé. En 1789, le Conseil de Paris, c'était plutôt détendu. Ouais, c'était le moment, ouais. C'était bonne ambiance. Je sais pas pourquoi Gérard Larcher, il a l'air d'être antipathique, hors politique. Ça se trouve, c'est dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Gérard Larcher, moi, je l'ai rencontré. Il est très sympathique, hein. Enfin, il est un bonhomme très gentil. Darmanin, il est sympa, je l'ai jamais rencontré Darmanin. Je sais pas, je saurais pas te dire. Un des mecs les plus sympas que j'ai rencontré, c'est Christophe Castaner, figurez-vous. Voilà. J'ai été le premier surpris, mais fondamentalement très 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 sympathique. Alors que Mathilde Panot, on l'a jamais vu rire ni sourire. Oh, je suis pas d'accord avec toi. Mathilde Panot, elle est giga sympa. Hein. J'ai fumé des clopes avec elle à Ivry, je me souviens. Super sympa. Non, 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 mais je vais pas faire la liste, hein, parce que objectivement, je suis en train d'essayer de chercher dans ma tête un politique non sympathique avec qui j'aurais eu l'occasion de discuter. Et franchement, j'en trouve pas. C'est pas la sympathie d'une personne est totalement indépendante de ses positionnements politiques, etc. Retailleau, il est adorable. Retailleau, je l'ai interviewé, sympa comme tout, hyper avenant, hyper poli, évidemment bien élevé, machin, mais indépendamment de ça, très gentil, hein. Il m'a posé plein de questions sur ce que je faisais et tout. De Rugy, il est adorable. Non, mais franchement, je... Le Pen, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai connu des journalistes qui couvraient l'extrême droite et qui, du coup, avaient l'occasion de déjeuner avec elle régulièrement. Ils me disaient, là, elle est très sympa. Enfin, encore une fois, ça veut rien dire. C'est pour ça que je vous dis. Le père Le Pen, jamais rencontré, mais pareil, tous les journalistes que je connais qui ont eu l'occasion de le rencontrer m'ont toujours dit que c'était un bonhomme adorable, qui est bon vivant, qui aime bien rire, sympa comme tout, avenant et tout, enfin tu vois, bon. C'est la base de leur fonction d'être sympa. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'idée, ouais. Je suis assez d'accord avec toi, il y a quelque chose de naturellement sympathique, profondément humain dans le fait de faire de la politique. C'est un peu l'idée qu'il enfin, il faut aimer les gens. Si t'es irascible, bah tu vas pas vraiment faire de la politique, ça a pas de sens. Si tu détestes les gens, tu vas pas te battre pour eux, hein. Tu vas pas te lever tous les matins aux aurores pour aller les défendre. Théorie fumeuse. Il y a quoi de fumeux dans ce que je dis? L'idée que la politique est un espace qui présuppose un contact régulier avec les gens, une envie de les défendre, une envie de faire des choses bien pour eux, quelle que soit l'opinion qu'on a de ce qui est, de ce qui relève du bien ou du mal. Et que du coup, là, c'est la politique va plutôt présélectionner des personnes qui ont des tendances avenantes et agréables à vivre. Ça vous paraît surréaliste ce que je suis en train de raconter? Les gens te croient pas quand tu dis que les politiques sont sincères. Oui, parce qu'ils confondent la sincérité avec la bonne volonté. Moi, je défends l'idée que les racistes sont des gens sincèrement racistes. Hein. Ils y croient dur comme fer. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur leur position, sur leur rapport au monde. Ils ont une lecture ethno-culturelle de la nation. Ils sont fondamentalement racistes, sincèrement racistes. Voilà. Ça me paraît gros vu le nombre de gens qui profitent de leur position pour dire des trucs clairement en opposition avec l'intérêt général. Tu remarqueras que l'intérêt général, c'est précisément l'enjeu du débat. Tu as une vision de l'intérêt général qui n'est pas celle d'autres personnes. Et vice-versa. C'est complètement subjectif l'intérêt général. Exactement, bien sûr. Et enfin, oui. C'est d'où l'intérêt de faire de la politique et d'avoir un débat démocratique. Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est que l'intérêt général. Je pense raisonnablement être en désaccord profond avec la vision d'intérêt général qu'a Bruno Retailleau. Les politiques aujourd'hui ont comme objectif l'intérêt général ou plutôt le clientélisme. Ça, c'est un biais assez classique, hein, et assez répandu qui consiste à considérer que les personnes qui qui votent comme moi le font pour de bonnes raisons. Qu'ils le font avec intelligence, justesse, honnêteté et sincérité. Qu'en revanche, les personnes qui ne votent pas comme moi, eux, le font par mépris, par erreur, par volonté de nuire, par manipulation, etc. Ce que je veux dire, c'est que les politiques que vous n'aimez pas, les hommes et les femmes politiques que vous n'aimez pas, les ministres, etc., sont convaincus d'agir dans l'intérêt général. Ils en sont intimement convaincus. Ils défendent leur opinion, ils défendent leur vision de l'intérêt général, et ils sont sincèrement convaincus que ce qu'ils font, c'est le bien. Pour le bien commun. Ça ne retire rien, mais alors rien du tout, à la sincérité de vos engagements à vous, contre ces gens-là. À l'idée que vous défendez que ce qu'ils font est mauvais, néfaste, pas bon pour l'intérêt général. Voilà. Mais je sais que ça, c'est très, 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 très ancré. Hein. L'idée que moi, je suis dans le bon, le vrai et le juste, et qu'autrui est dans l'erreur, le néfaste et le malveillant. C'est normal, c'est naturel. On n'accorde pas à ses adversaires politiques le quart du début d'une reconnaissance de sincérité. Et ne vous méprenez pas, ne vous méprenez jamais sur le fait que vos adversaires politiques sont convaincus que vous, vous êtes clientéliste, communautariste, dans l'erreur, etc., etc. Que vos idées, que votre opinion est néfaste pour l'intérêt général. Ils en sont convaincus, et sincèrement convaincus. Pas par malice, pas par machin, mais par opinion. Pour eux, vous êtes dans l'erreur. Je ne parlais pas des électeurs, mais plutôt du niveau du personnel politique actuellement. Je ne sais pas quoi te répondre, parce que le personnel politique, ça n'existe pas. Personnel politique, ça recouvre des niveaux d'implication, de pouvoir tellement différents, des réalités différentes, des personnalités différentes, des idéologies différentes. Les politiques, ça n'existe pas. Il y a des élus locaux dans des mairies de 500 habitants, il y a des présidents de région de plusieurs millions d'habitants, il y a un président de la République, il y a des députés d'opposition, il y a Rachel Keke et Bruno Retailleau. Alors, Rachel Keke n'est plus député, mais tu vois ce que je veux dire. Donc... Quand on voit les affaires en justice, à un moment, ils font pas tout ce qu'ils font pour l'intérêt général. Mais je défends pas l'idée que... Attention, putain, on va le redire. Je ne défends pas l'idée que les politiques agissent dans l'intérêt général. Je défends l'idée que les politiques agissent dans l'idée qu'ils se font de l'intérêt général. Qui peut être différent du vôtre. Emmanuel Macron est convaincu que sa politique est bonne. Qu'il est nécessaire, utile... pour l'ensemble du pays, de réduire les impôts de production, de réduire la charge de l'État, de favoriser la compétition et de forcer les chômeurs à travailler. Il est absolument convaincu que c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, etc. Voilà. Je lui retire pas ça. Il est sincère, il le pense, il y croit, il le veut, il l'applique, etc. Et je suis absolument convaincu que les députés de gauche à l'Assemblée nationale sont extrêmement sincères dans l'idée qu'ils se font de l'intérêt général, qui est très différent de celui d'Emmanuel Macron. Ils pensent sincèrement, et ils y croient dur comme fer, qu'augmenter les salaires est une bonne idée, que c'est nécessaire, que c'est utile, que ça va dans le sens de l'intérêt général. Tu penses pas que quand il favorisait Uber, il ignorait un peu le concept d'intérêt général? Non, non. L'idée que tu te fais de l'intérêt général n'est pas l'idée qu'Emmanuel Macron se fait de l'intérêt général. Quand Emmanuel Macron favorise la société Uber, il croit dur comme fer que c'est un modèle de développement économique qui est favorable à la société, qui permet de sortir des jeunes du chômage, qui permet de mettre le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat, etc. Il en est convaincu. Il a ni raison ni tort. Il a une conviction. C'est pas pareil. C'est sa vision, c'est pas la vôtre. Aurore Berger, elle sert l'intérêt général dans le lobby des crèches privées. Vous le faites exprès, hein. Vraiment, vous le faites exprès, hein. Je vais le redire une dernière fois, parce qu'après, ça va vraiment devenir pénible comme humour de répétition. Aurore Berger ne défend pas l'intérêt général, elle défend l'idée qu'elle se fait de l'intérêt général. Dans l'idée qu'elle se fait de l'intérêt général, le développement du secteur privé des crèches est une bonne chose. C'est nécessaire, ça apporte quelque chose d'utile aux familles qui en ont bien besoin, c'est important pour les collectivités locales, leur permettre de dépenser moins d'argent, etc. Voilà, elle en est convaincue. C'est l'idée qu'elle se fait. Qui n'est pas la mienne, ni la tienne, ni la nôtre, ni la vôtre. Voilà. Maintenant, je pense que je peux m'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter, hein, sur cette discussion. Je pense que vous avez compris mon point et où je voulais en venir. Ni tous ceux qui le veulent, exactement. Tu pars quand même du postulat que tous ces gens sont honnêtes. Non, je postule pas l'honnêteté des politiques, je postule leur sincérité. C'est pas la même chose. Je pense que Sophia Chikirou pense sincèrement qu'elle n'a pas triché. Elle est, à mon avis, moi je postule sa sincérité. Son honnêteté, par contre, c'est la justice qui va en déterminer, c'est pas moi. Du coup, s'abonner à Jean Massier, c'est pour le bien commun de tout le monde ou c'est pas une exception? C'est l'idée que moi, je me fais de l'intérêt général, que vous vous abonniez à ma chaîne. Mais je vais arrêter de répondre à vos exemples là dans le chat, parce que vous essayez de me sortir des contre-exemples, et à chaque fois, ma réponse va être exactement la même que celle que je viens de vous faire à 4 reprises. Donc je vais m'arrêter là, parce qu'en vrai, c'est pas ouf. Je suis sincèrement convaincu qu'être abonné augmente mes conditions physiques, oui. Le chat qui dormait en philo, on dirait. Ouais, oh, ça va, toi? Tu te prends pour qui? Relire Bourdieu un peu? Du coup, le budget. Ah, ça, on verra une autre fois. Le budget, il a été présenté jeudi dernier. De toute façon, on en connaît les grandes. On en a parlé dans Backseat hier soir. On en connaît les grandes lignes. Et il va être débattu dans les prochaines semaines en commission et en séance publique. Donc. Une partie va être votée le 29. Oui, je crois que c'est la partie recette qui est votée le 29, ouais. Je crois que c'est la partie recette. Du coup, il y a deux votes pour les recettes et les dépenses. Ouais. On vote d'abord les recettes et après les dépenses. Probable 49-3, oui. Oui, très probable le 49-3 pour l'adoption du budget. Ça, c'est sûr. Toum, toum, toum. Je vais m'arrêter là, les amis. Je vais m'arrêter là, les amis. Ce week-end, pas de stream. Probablement pas de stream. On reprend lundi. Je vais essayer de republier des créneaux de stream, ce serait cool. Putain, c'est chargé la semaine prochaine. Bon, on verra. Merci les copains d'avoir été là, c'était chouette. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et passez un week-end. Et puis à lundi prochain. Hein? Salut, profitez bien. Salut les copains, à bientôt, au revoir.